Voilà.
Il y a un axe thématique, en fait. Ouais. Visuel
oui,
et thématique.
C'est... Ouais. Bah, ouais. Au début, pour le premier, ça devait être le visuel qui est sur le deuxième Maxi 45 Tours, il devait être sur le premier. Et puis, comme le mec à qui je l'ai demandé, un peintre new-yorkais, que je ne connaissais pas du tout, hein, je lui ai envoyé un message sur Facebook, et le gars, il m'a dit « Ok ». Voilà. Ça a été très rapide. Enfin, voilà, il a accepté sans contrepartie. Il m'a dit simplement je veux un disque. Voilà, c'est tout. Et puis, en fait, comme il a mis un peu de temps pour valider, on a dû prendre une autre image pour le premier album. Et j'avais cette image, là, cette photo absolument superbe, qui est noir et blanc à l'origine. Donc, voilà, on a utilisé celle-là. Et comme on était sur une thématique new-yorkaise, c'était que des trucs de New York, donc je me suis dit, le troisième, il doit aussi avoir une image new-yorkaise. Et il y avait cette image que j'avais vue dans un film d'archi, je l'avais vu dans un documentaire quand j'étais aux États-Unis, cette image du couple qui danse, qui tourne sur lui-même et en même temps la fille tourne autour de son partenaire. Enfin, c'est une image, c'est un film à l'origine. Hein. Et c'était des skateurs super connus à l'époque, quoi. Ils étaient vachement connus.
Alors, on n'a pas encore abordé, et ça c'est important pour l'avenir, la partie live. Comment vous organisez, quand est-ce que vous faites des lives, combien vous en faites pour les bon. Gens qui nous écoutent et qui sont en train de découvrir Denner, qu'est-ce qu'il en est côté live, est-ce que vous tournez, est-ce que vous êtes demandeur, enfin tout ce qui tourne autour du live, quoi.
On est complètement demandeur, mais c'est très compliqué de trouver des concerts, en fait. Hein, c'est mais on tourne pas beaucoup, on a tourné, la seule période où on a réellement un petit peu tourné, c'était quand on était vraiment le noyau, la version rock, quoi, la période Drifting Canticles. Parce que voilà, on était tous les quatre, on était à Rennes. On répétait les mardis soirs, voilà. Et là, on a eu un peu plus d'activité en live. Mais après, il y a eu des confinements, mais c'est pas que ça. Bon, c'est vrai que c'était compliqué de faire des concerts pendant le confinement. Puis en plus, on était en train d'enregistrer, voilà. Il y a eu une chouette série là. On a fait un truc à Cherbourg dans une belle salle avec un son nickel. Et puis une semaine plus tard, on a fait Paris. Mais depuis là, pour l'instant, je cherche. Donc on cherche à tourner là. On va peut-être aussi.
Vous avez regardé un peu du côté des Belges, des Allemands et des Anglais aussi, parce que les Anglais seraient à mon avis demandeurs, non ?
C'est super dur d'aller jouer en Angleterre. Alors là, des groupes français qui vont jouer en Angleterre, alors là, il n'y en a quasiment pas. Non, c'est super dur d'aller jouer en Angleterre. Pas que pour les raisons, des raisons douanières, etc. Brexit, hein.
Ouais.
Ils n'en ont rien à branler. Ils n'en ont rien à branler du rock français. Ils n'en ont rien à carrer, hein. Ben, je veux dire, hormis Edith Piaf et éventuellement Rita Mitsuko, il n'y a rien d'autre, hein. C'est vrai, quoi. Les Anglais, on n'a rien à branler de nous. Hein. Ouais. C'est un peu moins vrai aujourd'hui que ça l'était il y a 30 ans, ou toujours.
Oui,
hein.
ils sont doucement en train de s'ouvrir. Un grand article du Wire sur Richard Pinas, donc le mec de Eldon, hein.
Oui.
Il y a pas longtemps, ils sont en train de s'ouvrir, comme tu dis, beaucoup plus maintenant sur l'extérieur, probablement aussi parce que ils sont un peu coupés du monde. On en parle souvent dans cette émission avec les artistes anglais qu'on interviewe, parce que le Brexit plombe beaucoup de choses, hein, aussi bien pour les concerts que pour l'exportation
de disques,
c'est la galère pour trouver les productions anglaises. Bon, donc voilà. Mais la Belgique, qui a quand même, tu en parlais avec certains labels et certaines personnalités que tu as rencontrées et artistes, serait plutôt partante pour ce genre de choses, non? Et l'Allemagne aussi, hein, le Wave Gothic Treffel.
Oui, oui.
Tout ça.
Là on a un petit contact vers le Treffel, là. Et puis moi régulièrement, il y a les gens qui achètent, il y a le Bandcamp qui achète la musique, commandent. Moi j'en vois, pas beaucoup, hein, on n'est pas non plus, j'en vois des disques en Hollande. Alors après, il y a aussi Stanislas qui en vend, mais moi j'ai la Suède, l'Allemagne, la Hollande, Voilà, c'est dans ces pays-là qui kiffent ce type de son, quoi. Là, il y a un mec cette semaine encore là, qui, bah, il a commandé, il a découvert Denner.
Bien, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Nous sommes dimanche, il est presque 14h, on se prépare pour Tempête sur les planches, et là, ben, normalement, nous avons ici les camarades de Folgallier, c'est bien la première fois, en quelque sorte, qu'ils sont absents, parce que là, ce que vous avez entendu est une rediffusion d'un Tormentor Radio Show, si j'ai bien compris ce qui se passait. Donc, très beau ce côté international, et nous sommes à Paris, nous sommes dans le studio Louise Michel, et nous allons vous présenter Tempête sur les planches avec la compagnie Joliment. Mais avant cela, bon, petite annonce pour la librairie du Monde Libertaire au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. Métro Fille du Calvaire, République ou bien Oberkampf. Et voilà, donc, ça devient très très pacifiste à la librairie Publico. Ça peut faire du bien en ces temps. Donc, qu'est-ce qui s'y passe? Alors, depuis hier, il y a une exposition d'affiches pacifistes et antimilitaristes mises sous cadre et concoctées par Jojo, qui est Joël de l'Union Pacifiste. Voilà, de très belles affiches antimilitaristes, jusqu'au 3 décembre à la librairie du Monde Libertaire. Et il y a une série d'événements dont je vous annonce ici le premier, ou un des premiers, c'est le jeudi 23 novembre. C'est à partir de 19h. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est une projection de film et une discussion à l'initiative du groupe Libertaire d'Ivry, sous le thème « On a voulu nous rendre cons ». Alors, je vais vous lire ce qui est en jeu, là. « Lors du mouvement de 1986 contre la sélection à l'entrée de l'université, un groupe de lycéens, les Lascars du LEP électronique, s'exprime à travers des tracts qui critiquent l'éducation, les profs, les étudiants, le travail. Voilà, ce documentaire est aussi une réflexion sur la lutte des classes au sein d'un mouvement. » Voilà, alors ça c'est le 23 novembre à partir de 19h. Et puis par la suite, il y aura beaucoup d'autres événements. Et là, ce sera plus encore centré sur la question pacifiste et antimilitariste. Voilà, maintenant vous êtes sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Et on va lancer la tempête sur les planches. De révélation.
Sympathique et charmant.
commence. Tempête sur les planches, et c'est un moment de grand bonheur, parce que dans le studio, il y a la compagnie Jolie Môme. En tout cas, une partie de la compagnie, parce qu'ils sont nombreux. Voilà. Alors, tout à l'heure, bon, avant notre tempête d'aujourd'hui, pour une fois, inhabituellement, de façon très surprenante, on n'a pas eu le folk allié, alors que, moi, Thomas Dambourg, je voulais justement faire le lien avec folk allié, parce que en seconde partie, aujourd'hui, je vais vous présenter Madeleine Fournier, qui prépare un spectacle basé sur le branle du Berry. Mais c'est un spectacle de danse contemporaine qui, avec transmission du branle et discrétion à partir de musique et danse traditionnelle. Donc très très folk. Donc si ça vous a manqué, voilà, je peux vous dédommager un petit peu pour le folk allié qui n'a pas eu lieu aujourd'hui.
Je m'alimentais industriel et agriculture intensive. Maintenant je suis sur le qui-vive. Je mange que si j'ai mon label.
Et là, bon, ça tombe bien aussi que la compagnie Jolie Môme, là, qui parle d'agriculture. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Donc, première partie, voilà, on va vous présenter les projets de la compagnie Jolie Môme, les luttes de la compagnie Jolie Môme, leur plaisir et leur, vous allez nous dire où vous en êtes, parce que comme je l'avais annoncé sur le site internet, là, le site de la Fédération Anarchiste et de Radio Libertaire, là, vous pouvez avoir les informations là, sur les émissions, sur le contenu qui vous attend. Et là, je vais bien annoncer que, bon, il faut soutenir Jolie Môme, il faut aller sur le site Jolie Môme, il y a des pétitions qui sont en cours pour qu'ils puissent rester dans leurs locaux. Mais avant ça, il y a un nouveau spectacle comme un coup de poing, et peut-être une façon de résumer, de faire le tour d'une vie et tout ça. Et ce spectacle s'appelle Révélation. Alors, Flo et Michel.
Bonjour. Allez, les
auditeurs. Bonjour. Et merci d'être venu. Je sais que c'est souvent difficile, hein, de vous présenter en live, puisque vous êtes toujours très occupé les dimanches après-midi. Il se passe plein de choses, là, la Belle Étoile. Donc, c'est super, on en profite de ce que vous êtes libre, parce que le nouveau spectacle Révélation va commencer très bientôt.
Oui, à partir du 17 novembre, donc la semaine prochaine. À la Belle Étoile, donc le vendredi, samedi, dimanche, jusqu'au 3 décembre. 3 semaines cette année, donc il faut en profiter.
Moi, j'ai compté, il y a 9 représentations, ce qui n'est pas beaucoup.
Oui, parce qu'on compte bien continuer les représentations au printemps.
Moi, je l'espère aussi. Et bon, tu vas nous dire de quoi ça dépend. Mais d'abord, bon, parlons de Révélation. Qu'est-ce que c'est que la forme? J'imagine que la forme sera, comme d'habitude, un mélange de musique, de théâtre, avec plein d'énergie et plein de monde. Mais tu peux tout nous dire sur ce nouveau spectacle.
Bon, alors, oui, bien sûr, il y aura de la musique, il y aura de l'énergie, plein de monde, moins que d'habitude. Nous nous sommes un petit peu concentrés sur un petit groupe, cette fois-ci. Le fond du propos, c'est comment la conscience politique nous parvient à travers les accidents de la vie, à travers les accidents de la vie. Et comment on se retrouve dans une troupe politique, alors qu'en fait on voulait peut-être faire du théâtre ou même autre chose dans la vie. C'était ça qui nous a intéressés cette fois-ci, et en plus ça nous a permis de faire une création totalement collective, dans le sens où chaque comédienne et comédien ont écrit leur propre texte.
Oui. Voilà. Donc, chacun vous parle de ce qui lui est arrivé dans la vie.
Oui, comment... c'est un peu comme une conférence gesticulée collective.
Gesticulée, chantée.
Oh, bien sûr, bien sûr.
Ah, oui. Donc, vous avez écrit de nouvelles chansons?
Oui, aussi. Aussi. Et puis... ça nous permet d'être dans le présent en permanence, compte tenu des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Voilà, les difficultés, c'est le risque de perdre ce lieu de travail, notre lieu de travail, qui nous permet de à la fois créer, jouer, accueillir, permettre à des mouvements divers de profiter de la salle. Voilà, les mouvements divers, ça peut être Médecins du Monde, ça peut être des maraudes, ça peut être de la solidarité avec Gaza, en l'occurrence, il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail aussi. Parce que non seulement on accueille, on joue, et en plus on fait le ménage, hein, on entretient les lieux, on change les lampes de projecteurs, enfin, tout un tas d'activités qui sont inhérentes au fait d'être responsable d'un lieu théâtral qui s'appelle la Belle Étoile, comme chacun sait. Voilà.
Oui, oui, mais chacun sait, mais peut-être pas, et puis peut-être tout le monde n'y est pas encore allé.
Ah oui, c'est
dommage. Alors tu peux nous parler un peu du lieu. J'ai lu que ça fait 19 ans que vous y êtes.
Oui, c'est un lieu qui nous a été confié il y a 19 ans par la mairie alors de l'époque qui était communiste. Elle a perdu aux dernières élections la mairie.
Et aujourd'hui, qui a la mairie là ?
Alors, c'est une équipe, entre guillemets, socialiste. Je dis bien entre guillemets parce que ça fait toujours drôle de dire ce mot par rapport aux gens qui y sont, quoi. Parce que pour battre les communistes, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir des voix de droite et d'extrême droite. Hein. Donc, oui, ils ont été élus avec l'appui des gens de droite et d'extrême droite, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont du mal à nous supporter, parce que peut-être que on ne sait pas bien ce qui se passe dans leur tête, évidemment, puisqu'on a, c'est impossible de les rencontrer, en fait. On les a rencontrés il n'y a pas longtemps dans le cadre d'un appel d'offres, puisqu'ils nous ont obligés à participer à l'appel d'offres, alors qu'on est là depuis 19 ans. Bon, bref, on a accepté de le faire. Mais je pense qu'ils ont peut-être des comptes à rendre à ceux qui les ont élus et qui voudraient se débarrasser de ce foyer rouge et noir proche du métro Front Populaire, de cet endroit spécial, un peu unique. C'est ce dont nous avons eu l'impression, en tout cas, lors de cette dernière rencontre. Nous avons cru entendre que un théâtre, c'est un théâtre. On n'a pas à faire des événements politiques, des conférences, style comme nous faisons régulièrement avec le monde diplomatique, dans un lieu de débat. Non, 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 un théâtre, c'est un théâtre. Alors, on a le droit de dire tout ce qu'on veut dire, mais à condition que ça soit fait en chanson ou en théâtre. Parce que là, on ne touche pas à la liberté artistique, nous a-t-il dit, monsieur le maire. Mais là, en faisant un événement à propos de Gaza, qui est en train d'être massacré, écrasé, les enfants, toute la population civile est massacrée par une armée colonialiste. Là, on est hors les clous, dit-il. Donc nous, on ne comprend pas bien, on n'est pas sûr d'avoir bien entendu, d'ailleurs on va lui écrire sûrement, pour lui demander si on a bien entendu, si c'est de ça qu'il parle, vraiment. La situation nous semble assez grave, oui. Il aurait pu, je sais pas, nous dire que 19 ans peut-être c'est long, qu'il faudrait peut-être qu'on pense à passer la main. On pourrait l'entendre, ça. On pourrait l'entendre. Bon, en sachant que quand même nous sommes arrivés dans ce lieu qui était un lieu désaffecté, c'était un taudis, hein, franchement un taudis. Et nous en avons fait un très beau théâtre, que, comme tous ceux qui sont venus peuvent en témoigner, avec l'appui de la mairie précédente, hein, la mairie communiste, parce que là, c'est très étrange, parce que, bon, la mairie communiste, elle a certainement des défauts, mais elle nous a donné une liberté, une indépendance totale. Et là, on se rend compte qu'en fait, ce ne sont pas les communistes qui seraient un peu staliniens, quoi, qui seraient dans la censure. Et là, c'est très étrange. On se dit, ah, en fait, les staliniens ne sont pas ceux qu'on croyait. Enfin, peut-être on se trompe, hein, peut-être on a mal entendu. On va demander un rendez-vous pour savoir si c'est vraiment de ça qu'il parle, qu'on a le droit de faire que de parler que quand on est artiste, quand on est citoyen, gestionnaire d'un lieu, il faut se taire. Il faut pas faire, il faut pas organiser l'événement. Voilà. Donc là, on est en état de sidération, on pourrait dire. On a cru bien comprendre qu'il avait plein de jeunes gens du style Jeune Théâtre National qui avaient envie de ce lieu, parce qu'effectivement, il est très beau. Je suis même pas sûr qu'il ait dit aux personnes qui ont postulé pour prendre le lieu que nous étions là, que nous étions toujours là et que nous avions l'intention d'y rester. C'est aussi assez surprenant que des autres artistes puissent postuler alors qu'une troupe est là, présente, y travaille, y pratique des activités en direction autant des enfants que des adultes, en étant présente effectivement au service des luttes diverses et variées qui existent à la fois dans la ville de Saint-Denis mais dans le pays. Voilà.
Mais c'est déjà un cas de figure particulier quand c'est une troupe qui est dans un lieu et quand c'est la troupe elle-même qui a en quelque sorte créé le lieu, qui a bâti le théâtre. C'est un peu comme si quelqu'un venait dire à Ariane Mouchkine qu'elle doit quitter le Théâtre du Soleil oui, parce qu'elle fait trop de choses politiques ou je sais pas.
Bah oui, tu parles justement des références que nous avons. Bon, même si nous n'avons pas les mêmes points de vue qu'Ariane Mouchkine, en tout cas c'est un modèle pour nous. Effectivement, elle défend ses valeurs qui ne sont pas les nôtres, faut le dire, mais en même temps, elle nous a montré le chemin de ce que devait être un théâtre. Effectivement, ils ont bâti l'intérieur du théâtre, c'est un peu comme nous. Ils avaient les murs quand même, puisque c'était une ancienne usine de cartouches. Mais nous, c'est un peu la même chose. On a fait un lieu, et c'est surtout ce qui est le plus surprenant. C'est de ne pas nous rencontrer pour nous en parler. Là, c'est une attitude qui est vraiment désagréable. On trouve que c'est quand même assez mal poli. C'est du mépris, nous semble-t-il.
Mais c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, que des budgets, des subventions d'une région, d'un département, suite à des changements politiques, souvent, sont amputés, et personne n'en parle aux compagnies, personne ne se soucie des artistes pour savoir comment ils peuvent faire, pour les aider peut-être à s'organiser, voilà, c'est aussi comme ce que tu dis au sujet de Gaza. La difficulté, c'est que, il y a une censure qui est en train de s'installer, qu'on n'a pas le droit de s'inquiéter du sort des gens à Gaza et des enfants, parce que on vous dit, mais vous êtes, c'est une complicité du terrorisme, comme si ça voulait dire qu'on approuve un massacre fait par le Hamas. Non, on ne l'approuve pas, mais on a quand même le droit de s'inquiéter pour des gens qui sont écrasés.
Bah oui, c'est là je pense que c'est le mot de trop. Outre le fait que faire des conférences, faire des rencontres, ça lui semble pas normal. Là aussi, c'est déjà assez hallucinant. Mais dans une ville comme Saint-Denis, ne pas permettre la possibilité aux gens de venir à une conférence, c'est ça le mot, hein, une conférence, c'est une émission en même temps, de parole d'honneur, et trouver ça choquant à Saint-Denis, dans une population qui vibre évidemment pour la population palestinienne. Là, ça nous, je pense que il y a des confusions qui sont volontaires, qui sont étranges en ce moment, d'amalgamer. En plus, là, c'était vraiment tout ça pour dire qu'à l'origine, nous sommes engagés avec cette association Parole d'honneur avant les événements, parce qu'il devait inaugurer un livre, un journal, une revue qui allait sortir. Et puis bon, il s'est passé Gaza. Il est évident que cette association qui est anticolonialiste et anti-impérialiste ne pouvait pas ne pas réagir. Et nous, nous étions heureux de participer à cet événement, dans le sens où, enfin, de l'accueillir. Parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent contre les massacres, quels qu'ils soient, on est bien d'accord. Hein, on est bien d'accord, mais enfin là, on n'est pas dans le...
Mais si cette mairie veut vous empêcher de parler de Gaza, c'est que cette mairie a du retard, parce que même le gouvernement américain, même Joe Biden, même Anthony Blinken commence à dire que ça suffit peut-être.
Et là, même Macron.
Mais le matin même, en fait, quand on a rencontré le maire de Saint-Denis, le matin même, on entendait à la radio que Macron appelait lui-même au cessez-le-feu. Donc...
Non, mais je crois qu'il y a un décalage, et on voudrait comprendre qu'est-ce qui l'anime. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, qu'ils nous le disent, qu'on se parle franchement, qu'on négocie même s'il le faut, enfin, tout ce qu'on veut, mais c'est, là, on est dans quelque chose de pas du tout normal.
Alors, si je comprends bien, je ne sais pas sous quel régime vous êtes, je veux dire, le propriétaire des lieux, c'est donc la mairie ?
Oui, bien sûr. Ouais. Le propriétaire, c'est la mairie. C'est la mairie qui nous a accueillis, la mairie communiste d'il y a 19 ans. Avec, comme échange, ils ne nous donnent pas d'argent. D'accord ? Et bon, on a trouvé entre-temps une subvention du conseil régional qui nous a été supprimée l'année dernière, parce que Pécresse est arrivée. Et qu'ils n'ont pas réalisé tout de suite qui est-ce qu'ils subventionnaient. Ils s'en sont rendus compte après un exercice. Là, évidemment, on a perdu notre subvention du Conseil régional. Mais à l'origine, c'était indépendance totale. On ne vous donne pas d'argent, mais on paye les fluides. Les fluides, ça implique le chauffage. Le chauffage, ça coûte quand même assez cher, parce que c'est un chauffage électrique qui, par des radiants qui opère très bien, d'ailleurs. Il fait bon, la belle étoile. On donne pas d'argent, vous vous débrouillez. On a dit oui, nous on se débrouille. À partir du moment où vous nous laissez tranquille, tout ira bien. Et effectivement, nous étions dans une confiance, quelque chose d'assez joli, où on en arrivait même à dire au directeur des affaires culturelles, non mais je sais, moi c'est moi qui lui parlais, hein, je sais que t'as beaucoup de spectacles à aller voir dans l'année, quoi. Ça doit pas être facile d'aller voir plein de spectacles, des bons et des pas bons. Si tu veux te reposer, t'es pas obligé de venir nous voir. Et ça se passait très très bien. des fois ils venaient, mais voilà, effectivement ils savaient qu'on n'était pas en demande à ce qu'ils viennent voir notre dernière création, notre dernier spectacle. Ça nous faisait plaisir quand ils venaient. Bon, bref, hein, voilà. Et là, on s'est retrouvé évidemment avec une équipe totalement différente, avec qui on donne des rendez-vous. Là, je parle de direction des affaires culturelles. Oh, c'est pas des mauvais bougres, hein. Ce sont des fonctionnaires qui font comme ils peuvent, mais qui donnent des rendez-vous et puis qui les annulent régulièrement. On a eu 3 ou 4 rendez-vous annulés, reportés, et jusqu'au jour où ils nous ont dit « Ah, maintenant, c'est visite du théâtre pour par les postulants à prendre votre théâtre ». Voilà, bon, on a joué le jeu, on a fait visiter le théâtre. Bon, là, il y en a quelques-uns qui ont compris, mais très peu, qui ont compris que y avait quelqu'un dedans, quoi. Mais les autres, ils ont fait comme s'ils n'avaient pas compris. Et on leur en veut pas, hein. Ce sont des jeunes qui, je sais pas, ils sont dans un autre univers. Ils sont dans un autre univers, ils pensent que... Je sais pas, que c'est chacun son tour. Et puis, oui, probablement, c'est chacun son tour. Nous, on veut bien, mais c'est le comportement, c'est le rapport de... Il y a des choses qui sont pas normales.
Et voilà. Non, c'est comme ça, chacun son tour. C'est quelque chose qu'on observe dans les centres dramatiques nationaux, dans les centres chorégraphiques nationaux. Voilà. Oui, mais alors ce chacun son tour, ça amène parfois à des ruptures de culture artistique qui sont violentes, alors qu'il y a des artistes qui ont construit des liens avec les gens, avec le public, des relations affectives pour leur... leur création, leur art que les gens aiment et qu'ils arrivent à fédérer un public, à constituer, et puis hop, après, bon, après quelques temps, ils doivent partir. Et le problème, c'est que ceux qui vont venir, ils font absolument le contraire artistiquement. Les gens sont perturbés. Bon, ça a du bon, ça a du moins bon. Voilà, bien sûr qu'il faut partager. Mais là, effectivement, on pourrait travailler sur bon. Un passage de relais, une continuité, autre chose, une logique.
Des choses à envisager, bien sûr. Oui. Mais voilà, enfin, de toute façon, nous ne sommes pas Ariane Mouchkine, nous n'avons pas son rayonnement, nous ne sommes pas peut-être aussi énormément talentueux, on ne sait rien, ce n'est pas à nous de juger là-dessus, mais effectivement, on est une équipe de salariés, tous intermittents, à salaire égal. On a des principes, on a un comportement qui correspond à notre philosophie, en quelque sorte. Nous sommes plus des artisans du théâtre. Nous faisons en fonction de nos moyens, puisque maintenant nous n'avons plus de moyens, eh bien nous faisons avec moins de moyens. en fait, nous disions, il y avait une personne de la direction régionale des affaires culturelles dans ce sorte de jury devant lequel nous avons comparu. Et elle était très surprise parce que je dis mais si vous êtes là, vous, madame de la direction régionale des affaires culturelles, vous allez pouvoir nous aider à faire des choses encore plus belles parce que vous allez nous donner de l'argent pour que ça soit plus beau encore tout ce que nous faisons. Mais j'ai rajouté, mais nous ne ferons rien au niveau dossier si nous n'avons pas la certitude que nous allons être aidés. Et pour elle, c'était totalement scandaleux. Parce que dans leur monde, on postule, on se soumet, et après on est peut-être aidé si on s'est bien soumis et si on parle comme il faut. Bah, je dis oui, mais le problème, c'est que justement l'intérêt de nous avoir à Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis, c'est que nous sommes totalement différents. Nous sommes quelque chose d'unique. Nous, on se comporte pas comme ça. On ne se comporte pas comme des gens soumis. Et c'est ça la beauté de notre troupe. Et nous l'avons prouvé à plusieurs reprises dans notre histoire, en n'ayant pas peur d'ailleurs d'envahir la DRAC à plusieurs reprises pour défendre les droits des salariés intermittents et des chômeurs aussi par la même occasion.
Mais tu vois, moi, il y a un truc, je pense qu'ils ont... En fait, ils ne connaissent pas le quartier, ils ne connaissent pas le théâtre, en tout cas, ils ne connaissent pas le travail de la compagnie Jolimôme. Sur les 8 qui étaient présents au jury, et 3 personnes seulement ont admis être déjà venues voir un spectacle. Et tu vois, on compare au Centre National Dramatique, mais en fait, là, c'est un théâtre de quartier, quoi. Il y a vraiment une vraie, pour utiliser un mot de novlangue, une vraie intégration, un ancrage dans le quartier et avec les gens. Et ça, les nouveaux qui vont peut-être arriver après nous, ils vont être complètement hors sol. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps, en fait, à créer ce côté-là. Donc, nous, voilà, ça fait 19 ans qu'on est là, et donc, les liens avec tout le monde, on les a depuis longtemps, les gamins, on les a vus grandir, enfin. Et je pense pas qu'on puisse vraiment comparer, en fait, à un Centre Dramatique National où il y a plein de permanents qui gardent, qui sont garants un petit peu de ce lien, alors que t'as des équipes artistiques qui arrivent et qui tournent, tu vois. Que là, ça va vraiment... faire un gros, gros changement.
Et on ne sait pas quel plan ils ont à moyen terme. Peut-être que, bon, ils vont mettre une autre compagnie, ça ne va pas marcher, donc c'est pour dire, vous voyez que ça ne marche pas, donc on rase le truc et on construit autre chose, et on peut-être coupe pain avec des promoteurs, ou on ne sait quoi.
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça... Enfin, tu vois, mais en plus, enfin, si tout se passait correctement, nous, on pourrait aider aussi les gens à s'insérer dans le quartier.
Oui, c'est ça.
Voilà. Non, je pense pas qu'ils vont raser cet endroit parce que par contre, il est probable qu'il ne s'appelle plus la Belle Étoile. Hein, ça, c'est c'est une chose que nous gardons en réserve. Non, nous souhaitons qu'ils réussissent à faire un truc correct. On n'est pas là, on n'est pas dans le. Je pense. La seule chose qui nous choque dans cette affaire, c'est le manque de De bienveillance et de reconnaissance pour le travail accompli. C'est-à-dire qu'on tombe sur des gens qui arrivent, et ils ont mal compris l'international, mais ça doit être le cas de, souvent des socialistes. Hein. Du passé, faisons table rase, mais c'est pas du capitalisme qu'ils veulent faire table rase. C'est des gens qui s'organisent en autogestion, dans la fraternité et dans la combativité contre le capitalisme. C'est de ceux-là qu'ils veulent faire table rase. Mais de toute manière, je pense que vous savez bien qu'on n'est pas surpris réellement. Il n'y a pas de surprise dans cette histoire. Nous savons par qui ils ont été élus, comment ils ont été élus, et nous connaissons l'histoire de la social-démocratie. Pour l'anecdote, nous sommes arrivés pour cet entretien devant un jury le 9 novembre. Et c'était le début de la révolution allemande, de la révolte des marins de Kiel en Allemagne, comme chacun sait, qui a donné le début, qui a sonné le début de la révolution spartakiste. Donc, c'est bizarre, parce que la révolution spartakiste, ça a été l'affrontement avec la social-démocratie aidée par la droite et l'extrême droite allemande. En particulier, le responsable de la social-démocratie de l'époque, qui s'appelait Noske, est rentré à Berlin avec les corps francs, dans lesquels il y avait Adolf Hitler, le jeune Adolf Hitler, blessé par la défaite, qui voulait reprendre la ville de Berlin aux communistes. Bon, donc, je me suis posé la question si j'allais lui en parler à monsieur le maire, mais c'était pas le moment parce que nous avions très peu de temps qui nous était imparti.
Bon, alors, tout le monde a compris et il y a alerte, il est important d'aller voir le spectacle. On peut aller sur le site de Jolimum pour signer la pétition, il y a les liens, etc. Peut-être, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les événements, tout ce qu'on pourra voir encore, là où on est sûr que ça va avoir lieu à la Belle Étoile, donc du 17 novembre au 3 décembre. Donc, spectacle Révélation, on en a parlé au début, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait dire encore? C'est quand même intéressant la question. Vous pourriez aussi travailler sur les gens qui viennent vous voir, les spectateurs, parce que chacun a son histoire. Venir voir Jolimum, c'est déjà un petit peu à être ouvert à toute question d'engagement politique, et chacun aurait des choses à raconter.
Mais je pense que ce spectacle, il va faire écho à pas mal de personnes, parce que c'est vrai qu'on raconte que on est devenu militant ou politisé sans forcément être tombé dedans tout petit, et c'est vrai que du coup, ça c'est des révélations qu'on est quelques-uns à faire dans le spectacle, et c'est parfois des choses que les militants n'osent pas avouer à d'autres militants, parce qu'il faut se faire une carrure, un personnage de parfois comme ça dans le milieu militant. Mais je pense que ça va parler à pas mal de personnes. Et donc en fait, on joue du 17 novembre au 3 décembre. C'est vraiment bien si vous pouvez venir dès le premier week-end, comme ça. Plus les salles seront remplies, plus on sera fort en face de la mairie. Il y a aussi un débat du monde diplomatique qui va être, je pense, très intéressant, le 7 décembre. C'est sur, justement, la culture, les subventions, la culture populaire, toutes ces choses-là qui sont attaquées par, entre gros guillemets, la gauche. Donc je pense que ça, justement, dans le contexte, ça va être très intéressant. Il y a le dernier dîner-spectacle de l'année, en tout cas, le 8 décembre. Et il y a un grand événement qu'on organise le 15, 16, 17 décembre qui s'appelle Hypernova. Et là, je vais laisser Michel le présenter parce qu'il le fait très bien.
Bon, je vais essayer de le faire très bien. Bon, Hypernova, ça sera la démonstration de notre force, nous l'espérons. En espérant aussi que, comme dit Flo... auparavant, nous aurions réussi à remplir le théâtre. Là, il serait très important de le remplir à ras-bord, le théâtre. Nous aurons tous nos soutiens. Ces derniers soutiens, ils sont très, très larges, parce que, en fait, nous sommes un trait d'union. En tout cas, nous avons été un trait d'union pendant ces nombreuses dernières années, entre beaucoup de gens. Alors, on pourra y retrouver quelqu'un qui n'est pas aimé à l'extrême gauche actuellement. Oui, par exemple, François Ruffin. Mais c'est d'un camarade avec qui nous avons quand même vécu quelques aventures, en particulier au cours du film Merci Patron. Nous pourrons y retrouver aussi, bien sûr, Olivier Besancenot. Nous l'espérons, Nathalie Arthaud, que je n'ai pas encore eu au téléphone, mais c'est fort probable. Nous aurons des gens comme André Chassaigne, les journalistes du monde diplomatique, et d'autres personnalités diverses et variées, comme Aline Payet, enfin, des amis avec qui nous avons beaucoup travaillé ces dernières années. Et nous allons accueillir des spectacles, surtout des spectacles. Nous allons accueillir L'hiver sera chaud, qui est, je vais résumer très vite, un spectacle d'agitation propagande qui peut se jouer dans la rue comme dans notre théâtre, bien sûr, à propos des problèmes de dérèglement climatique, et qui, évidemment, on va résumer tout simplement, l'écologie sans lutte de classe et du jardinage. Enfin, voilà, tout le monde sait bien... nous allons accueillir aussi Nicolas Lambert, qui est le dernier spectacle de Nicolas Lambert, qui s'appelle La France Empire, sur ce qui est dit dans le titre, je crois que tout le monde comprend, c'est les comportements coloniaux, impérialistes de la France, en particulier et en Afrique.
Alors, Nicolas Lambert, oui, ça c'est des grands souvenirs. Qu'est-ce qu'il a pas fait là sur le nucléaire, sur la France-Afrique,
Elf, la
sur Elf, sur le pétrole et tout ça. Et ce travail de documentaliste et de défricheur, de fouiller dans les archives, dans les médias, de nous donner à voir et à comprendre comment les choses sont liées, qu'est-ce qui se trame.
Il fait partie aussi de notre liste de ces dernières années, Nicolas. Nous aurons aussi évidemment la troupe à FAG, où nous avons des camarades aussi à l'intérieur. En fait, il y a tous ceux qui ont vécu des histoires longues avec la compagnie Jolimôme seront là. Dans la FAG, là, ils vont jouer les pirates. Ceux qui ne connaissent pas la compagnie Au fond à gauche, à FAG, c'est Au fond à gauche. C'est du cap et épée libertaire, voilà, et poétique. Et il y aura certainement de la danse.
Il y aura le brinque-ball.
Il y aura le brinque-ball.
Il y aura aussi
des concerts.
Notamment, je pense qu'on peut le dire, Osloub, qui est un rappeur palestinien.
Il y aura des surprises, et puis nous, bien sûr, on sera là. Et c'est un événement vraiment important pour nous, ça sera très important, parce que comme je disais à monsieur le maire, je lui disais, écoutez, l'ambiance dépendra de la réponse que vous nous donnerez. Ça lui a fait un peu peur, il a senti ça comme une menace. Je lui ai dit, non, vous inquiétez pas, on mettra pas le feu au théâtre, nous sommes des gens qui savons être révoltés en souriant, voilà. Mais ça sera effectivement un moment important de notre histoire et nous aimerions vraiment, même tant pis si tout le monde ne peut pas tout voir, mais nous aimerions que ça soit bien rempli, qu'au moins les gens puissent boire un verre en attendant.
Et ça sera un événement qui sera en fait à prix libre, comme on dit, libre et respectueux ou libre et conscient, enfin voilà. Donc il y aura probablement quand même une préinscription quand même pour qu'on sache un petit peu à l'avance, si on peut, voilà, combien on sera. Ne serait-ce que pour prévoir un petit peu tout ce qui est restauration. Donc ça sera en ligne bientôt. Les préinscriptions ne sont pas encore en ligne, mais bientôt.
Alors si la mairie souhaite que la belle étoile brûle, ils auront les moyens de s'en occuper. Pour après dire... c'était la compagnie Jolimôme, hein, si tu parlais de Hitler...
Ouais. Non, mais... voilà. Tu vois, c'est un bout d'un moment... Au bout d'un moment, c'est pour nous tellement affligeant, cette situation, que on est au-delà de la révolte, là. On est au-delà de la révolte. Ce genre de comportement, enfin, on s'attendait à avoir des difficultés, mais pas de cette façon. C'est quelque chose d'étrange, et de là à mettre le feu. Non, je crois qu'ils veulent garder ce lieu. Enfin, il me semble, en tout cas, ça serait tellement stupide. Tellement stupide. Ce lieu qui est entre un jardin public et une cour d'école primaire. La cour à cour, le jardin au jardin.
Oui, ce sont des lieux qui peuvent tout à fait être emblématiques. Il suffirait de vouloir en profiter. On pourrait en faire un symbole, quelque chose pour l'image de la ville, du département, comme le chapiteau de Fratellini, là, en Seine-Saint-Denis. Ça apporte quelque chose, ça apporte une respiration. Le chapiteau de cirque de Fratellini, il est aussi entouré de bâtiments en verre et d'acier, de bureaux, etc. Mais les gens qui sont dans le quartier apprécient cette présence.
Oui, puis je pense, ce qui est drôle, enfin, je pensais, là, une mairie de droite nous aurait utilisé comme caution.
C'est tout à fait possible.
Oui, parce que quelquefois, ils sont pas idiots. Moi, je me rappelle d'une fois, on a joué, je peux dire, l'endroit, c'était Cluny. C'est une ville... Cluny, c'est vers Auxerre, par là-bas. Là. C'est pas une ville progressiste, c'est un maire de droite. Et le directeur de la culture nous a fait venir 3 années de suite. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu nous fasses venir là? Il m'a dit, bah, tu sais, mes relations avec le maire sont simples. C'est un maire de droite. Il m'a dit, de toute façon, le public du théâtre, c'est pas mon théâtre. C'est pas mes électeurs. Le public du théâtre, c'est pas mes électeurs. Donc tu fais ce que tu veux, et moi, ça me convient très bien. Ça fait, bah, tu sers de caution, c'est la liberté ici, voilà.
C'est bien pour son image, oui.
Bah oui, c'est bien. Oui. Et là, c'est bon. Des fois, on n'a plus de mots pour définir, pour décrire la situation étrange dans laquelle nous sommes. Ils ont bien essayé à l'époque, il y avait des maraudes chez nous jusqu'aux fin du printemps, là. Ils ont essayé de nous expliquer. Non, c'est l'élue à la culture démissionnaire d'ailleurs, mais on ne sait pas pourquoi elle a démissionné, mais enfin elle dit qu'elle est toujours dans sa majorité. Bon, tant mieux pour elle. Elle a essayé de nous expliquer que ça serait quand même bien que ça soit un théâtre et pas un lieu où on fait des maraudes. Je dis, bah oui, mais il faut demander à eux qui font les maraudes s'ils veulent aller ailleurs. Et là, bah, elle savait pas quoi me répondre. Je dis, bah, vous avez quelque chose à proposer comme lieu différent. Bah, ça, on peut y réfléchir. Mais je dis, prenez contact avec eux. Nous, pour le moment, eux, ils n'ont pas d'autres endroits parce qu'on a commencé les maraudes parce que entre la porte de la Chapelle et puis le Stade de France, il y avait 1000 migrants qui dormaient dehors et qui n'avaient rien à manger. Et c'est pas nous qui avons pris l'initiative de ça. Ce sont des voisins, des habitants. Et quand nous avons vu qu'ils faisaient la manger chez eux, qui s'organisaient en faisant à manger chez eux dans différents appartements pour leur apporter le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. On dit, bah, écoutez, nous, on a une cuisine, allez-y, servez-vous-en, quoi. Mais nous, ça nous semblait une évidence de la part de gens, enfin, à part d'artistes, parce qu'il dit, vous avez le droit d'être engagé à travers vos spectacles et vos chansons, mais si on est engagé qu'à travers les spectacles et les chansons et qu'on n'assume pas derrière, ça nous semble un peu ridicule. C'est bien joli de faire le révolutionnaire sur le plateau. Il y a un moment donné, il faut quand même assumer derrière. Enfin, en tout cas, nous, ça a toujours été notre ligne. Alors, des fois, on peut pas faire tout, on peut pas être partout dans toutes les manifs, on peut pas être partout dans toutes les actions, bien entendu. D'autant plus qu'on a la responsabilité d'un lieu, il faut qu'on le fasse sérieusement. Mais quand on peut, pour nous, c'est la moindre des choses d'être à la hauteur de nos engagements. Et ça, je crois qu'un monsieur comprend pas. Il comprend pas, ce monsieur.
Bon, très bien. Alors, voilà. Vous avez compris. Si vous n'êtes pas encore allé à la Belle Étoile, le lieu de la compagnie Jolie Môme, il faut vraiment y aller, découvrir ça. Peut-être faire un tour dans le quartier. Regarder à quoi ça ressemble. J'espère que vous êtes curieux. Et bien sûr, voir le spectacle, Révélation. Et puis, cet événement Hypernova, mi-décembre. Voilà, tout ça, c'est sur le site internet de Jolie Môme. CIE comme compagnie, CIE-jolimôme.com. jolimom.org, joli, vous savez, hein, c'est au féminin, jolimom, et il n'y a pas de point, il n'y a pas de tiret, donc jolimom, tout attaché, .org, ou bien, bon, on tape compagnie jolimom, on trouve tout de suite, on tombe dessus, et vous avez tous les liens, les calendriers pour réserver pour le spectacle, tout ça, c'est très bien organisé sur le site de la compagnie. Donc, oui, vous avez tous les deux, je crois, hein, œuvré là pour créer le lieu, pour créer ce théâtre. Dis-nous juste un mot, un petit rappel, qu'est-ce que c'était Jolimom avant que vous soyez arrivé à Saint-Denis
Alors, on va sourire un peu. Nous étions une troupe qui jouait quand même de temps en temps dans les théâtres, mais la plupart du temps dans la rue. Mais quand même dans les théâtres, hein. Et sous un chapiteau aussi, nous avions un chapiteau. Mais nous avions un local dans Paris qui était assez agréable, qui était un local sur deux étages de 600 mètres carrés, on pouvait répéter, entreposer nos costumes, le peu de costumes que nous avions, mais bien le matériel que nous avions, et puis bureau administratif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, monsieur Delanoë, oh tiens, un socialiste, a eu l'intention d'accueillir les Jeux Olympiques. Eh ben oui, c'était donc, là je raconte cette histoire, c'était donc en 83, puisqu'on est arrivé en... en 2003, parce que nous sommes arrivés en 2003, parce que nous sommes arrivés donc dans ce lieu que nous avons baptisé la Belle Étoile en 2004. Il a décidé que tout le pont Cardinet, vous savez, dans le 17e, là, il y avait des entrepôts, il y avait les architectes, il y avait les syndicats, le syndicat Sudrail, il y avait tout un tas de gens, eh bien, devait déménager, enfin, était expulsé, quoi, en quelque sorte, pour construire le village olympique. Bon, depuis, c'est devenu des HLM, ce qui n'est pas une mauvaise chose, je crois, en grande partie. Mais bon, nous, on s'est retrouvés sans lieu à cause des Jeux Olympiques. Et là, on voyait les Jeux Olympiques arriver, on se disait, ça va être encore notre tour, parce que ce sont les Jeux Olympiques. Et il nous semble que les Jeux Olympiques ne sont peut-être pas pour rien sur le fait qu'on a envie que nous partions.
Ouais. Voilà. Ouais. Les Jeux Olympiques.
Oui, les Jeux Olympiques. Ben, ce monde de compétition, d'excellence.
Bon, alors merci beaucoup Flo et Michel, la compagnie Jolimom. Donc ce sera à partir du 17 novembre, c'est toujours le vendredi et le samedi à 20h30 et le dimanche à 16h. Et on peut arriver plus tôt, bien sûr, manger quelque chose, boire un coup ou bien après le spectacle, voilà. Et c'est un lieu qui est une source de bonheur, quand même. Hein.
Ah, merci. Et merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de venir à Radio Libertaire.
Merci d'être venu. Et on va encore écouter Jolimom. C'est bien sûr, si, alors la toute première chose qu'on entend chaque fois, en tempête sur les planches, c'est la compagnie Jolimom qui chante Le Temps des Cerises. Et bien, ça, ce n'est pas parce que vous êtes venu aujourd'hui. Ça, c'est chaque fois quand il y a tempête sur les planches. Mais les autres chanson, oui, ça c'est quand même spécial pour fêter votre présence. Donc merci encore d'être venu dans Tempête sur les planches, Radio Libertaire, voilà, c'est la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste.
Des grenouilles vivantes dans de l'eau bouillante, elles se débattent, elles se débrouillent pour se sauver d'une mort violente. Mais tentons donc une expérience, allons-y petit à petit, histoire de les mettre en confiance. 1, 2, 3, 4, c'est parti.
L'eau était fraîche, elle était bonne, elle se sentait bien dedans, pas une goutte de carbone, un grenelle de l'environnement.
De l'avion.
Elles en oubliaient, c'est mignonne. Le décor un peu oppressant.
C'est sûr, au début ça étonne. Le métal gris c'est déprimant.
On leur a laissé une échelle pour y grimper socialement.
Les humains sont vraiment cruels.
Et les batraciens trop confiants. Pour améliorer l'esthétique,
quelques cailloux multicolores. Un panier
en matière plastique.
Un peu de faune,
un peu de flore.
flotte. Quand l'eau tiédit, ces créatures se disent
voilà le printemps.
Comme on le fait dans la nature,
se mettent à faire des enfants.
Mais il fait chaud, c'est épuisant.
Des bulles émergent à la surface qui scintillent comme des écrans.
Voilà, dis pas que c'est gourdasse.
Hypnotisés par la fumée, asphyxiés par les colorants,
ne peuvent déjà plus bouger,
victimes d'un réchauffement.
Et quand enfin l'eau pousse, elle conne, réalise mais un peu tard
que la force les abandonne.
Elles agonisent sans gloire. Petit à petit,
réforme par-ci,
réforme par-là.
Ils nous veulent dociles, affaiblis. On a le droit de se balader entre république et nation. Et le lendemain, on retourne bosser. Au bout du compte, on tourne en rond. On est déjà dans la cocotte. L'eau a commencé à chauffer.
Quand est-ce que ça va péter ?
Alors voilà, Tempête sur les planches continue sur Radio Libertaire et on va essayer maintenant d'aller dans cette histoire de branle à l'atelier de Paris qui est un centre de développement chorégraphique national. On a évoqué tout à l'heure Ariane Mouchkine. Alors l'atelier de Paris fondé par Caroline Carlson se trouve sur le même site à la Cartoucherie, à 100 mètres du Théâtre du Soleil, voilà. Et là, il y a alors la semaine prochaine la chorégraphe Madeleine Fournier qui crée un spectacle qui est basé sur le branle. Donc moi j'avais pensé que ce serait un joli coup d'œil là avec nos camarades de folk alliés qui sont ici dans le studio tous les dimanches de midi à 14h. Mais depuis les dizaines d'années, je sais pas combien, hein, que je présente Tempête sur les planches sur cette antenne, c'est bien la première fois qu'il n'y avait personne, sauf peut-être au mois d'août quand tout le monde est en vacances. Voilà, alors, je vais essayer de lancer peut-être déjà un peu de musique que j'ai enregistrée parce que j'ai vu un petit peu de répétition. Et c'est les deux musiciens live sur le plateau, là, sont Marion Cousin et Julien Desailly. Je les ai enregistrés, j'espère qu'on va les entendre, j'espère que ça marche. Si ça marche pas, on fera autre chose, mais il y a toujours un espoir, on peut toujours penser que peut-être ça va marcher. Alors, voilà. Hop. Et il me semble bien qu'on entende quelque chose. donc Thomas d'Hambourg pour Tempête sur les planches. Et maintenant, Madeleine Fournier, la chorégraphe. Dans un instant, j'espère que ça va aussi bien marcher que la musique. Voici Madeleine Fournier. Alors, je salue Madeleine Fournier qui prépare un spectacle qui va avoir lieu à l'atelier de Paris, à la cartoucherie. C'est de la danse, c'est de la musique live sur le plateau. Et le plateau est circulaire, une chose très intéressante dont on va parler aussi. Et donc, c'est une pièce de danse, a priori, et qui part de danse traditionnelle. Oui, tu peux nous expliquer de quelle danse et comment ?
Ça part de la bourrée de temps. Donc c'est une danse collective qui se danse de plein de manières différentes, mais moi j'ai choisi une forme où c'est deux lignes qui se font face et où les danseurs danseuses ne font que se rapprocher, s'éloigner et se croiser, mais sans se toucher. Et c'est un pas qui a l'air assez simple quand on le regarde. Enfin, c'est vraiment une danse qui paraît assez simple, après qui techniquement demande quand même d'apprendre à danser ce pas, mais de l'extérieur, voilà, il y a une forme assez simple. Et du coup, je suis partie de cette danse pour inventer cette pièce qui s'appelle Branle.
Parce qu'il y a bien derrière tout ça un peu une idée du bal, ouais. Et quelques réminiscences. En même temps, on n'est pas dans un bal. Ce que tu dis sur la danse, ça me rappelle aussi la contredanse du baroque. Tout ça est lié dans l'histoire de la danse, les danses de cour, les danses du peuple. Et il y a des passerelles entre les deux. Et donc, en même temps, quand vous dansez, alors ce ne sont pas des danseurs, je pense, qui ont l'habitude d'aller dans les bals, dans les fest-noz et tout ça, non ? C'est plutôt des danseurs contemporains ?
Alors, la danse de laquelle je pars, la bourrée de temps, si, ça se danse vraiment dans les bals. C'est là que je l'ai rencontré, oui. Quoi.
Mais les interprètes.
Et nous, non, on est, plutôt des danseurs, danseuses contemporaines. Donc on a appris ce pas et cette danse auprès de Solange Panis, qui est quelqu'un qui transmet les danses traditionnelles, et notamment cette danse-là qui est la bourrée de temps du Berry. Et son père à Solange, Pierre Panis, était un des premiers collecteurs de danse, de chant, de musique traditionnelle dans le mouvement revivaliste des années qui a, je crois, commencé après-guerre, quoi, pour des années 50. Et voilà, du coup, elle est venue nous apprendre cette danse-là, et on a commencé le processus avec cet apprentissage. Pour que petit à petit ce pas s'imprègne en nous, fasse vraiment partie de notre langage commun, et que ce soit une base pour inventer d'autres choses à partir de ça, mais que ça reste notre grammaire, quoi.
Parce que j'ai vu le traitement après de ce vocabulaire de cette danse va s'ouvrir sur d'autres univers. En tout cas, là, ce que j'ai vu un peu de répétition, c'était quand même assez ralenti quand je suis arrivé. C'est une... Je sais pas, tu peux expliquer ça un petit peu, vers quoi vous allez ou qu'est-ce que vous cherchez par ces transgressions, quoi.
Alors, ouais, toi, tu as vu une partie qui est effectivement dansée très lentement, mais c'est un moment de la pièce. Il y a d'autres moments, et notamment il y a une très longue bourrée qui est au tempo normal, disons, de la bourrée. Et en fait, qui est vraiment le point de départ de la pièce, c'est-à-dire. Comment, à partir d'un même motif chorégraphique et musical, qui est celui de la bourrée de temps, on peut comment dire, à la fois aller dans des choses très minimales ou des choses très très déconstruites, très augmentées, très amplifiées, etc. Mais voilà, voir comment on est toujours maintenu par ce motif, comment la danse et la musique sont toujours maintenues par ce motif-là, et qui est quelque chose du coup qui nous structure collectivement, et en même temps comment on a la liberté chacun chacune de à l'intérieur de ça. Donc c'était comme une sorte de recherche aussi sur jusqu'où on peut aller dans le maximalisme et dans le minimalisme à partir d'un même motif, et du coup toute la diversité, toute la variation qui peut exister dans une même chose en fait.
Alors un bal quand les gens dansent, ça c'est pas fait pour le public. Ici, quand je suis arrivé, quand il y avait cette phase du spectacle au ralenti, moi, j'avais l'impression que c'était une sorte de respiration, presque quelque chose de méditatif là-dedans, ouais. Où on peut du coup se transposer mentalement dans une autre sphère. Mais les musiciens étaient en train de jouer, et quand même ça nous porte sur d'autres terrains. Mentalement, dans les sensations, voilà. Donc c'est aussi parce que c'est un spectacle, donc il y a une dramaturgie à avoir, il y a un rapport au public à construire. Quand tu présentes un spectacle, c'est autre chose que dans un bal. Donc comment tu travailles là-dessus?
Ouais, c'est une bonne question, parce qu'effectivement on a vraiment c'est un peu tout l'enjeu de cette pièce, c'est que ce soit une pièce chorégraphique, donc un spectacle avec une dramaturgie, une construction, et en même temps c'est aussi j'avais aussi envie que ça joue aussi sur les ressorts du bal, c'est-à-dire sur l'empathie du rapport au mouvement, que ça puisse donner envie de danser aux personnes qui regardent, et aussi un espace, comme tu dis, plus méditatif pour vraiment regarder la danse, écouter la musique, mais dans un rapport où le code est très clair, parce que c'est pas participatif comme spectacle. Donc c'est vraiment une proposition d'être à la fois spectateur de ce qui se passe, et en même temps jouer avec ce désir possible de nous rejoindre dans la danse, ou de se mettre à danser, ou de s'imaginer que peut-être ça pourrait être possible sans aller jusqu'au fait de rendre ça possible. Donc ça joue un peu sur ce potentiel de l'espace circulaire et du bal, tout en restant quand même vraiment un spectacle, quoi.
Oui, voilà, je me suis dit, bon, peut-être à la fin il y aurait une invitation à vous rejoindre pour danser, ou peut-être pas.
Non, il y aura. Je pense pas qu'il y aura d'invitation à nous rejoindre danser, parce que je crois que c'est déjà quand même le danser, de regarder les gens danser. Ça peut faire danser. Enfin, c'est ça en tout cas le but, c'est de que ça crée pas une frustration, mais que ça crée un sentiment de danse, même. Pas que mental, quoi, quelque chose de vraiment d'empathique, de kinesthésique. Et après aussi, la dramaturgie de ce spectacle, elle est un peu spéciale, parce que il y a quand même ce désir de proposer quand même une expérience sur la durée aussi. Tout est quand même relativement écrit, mais on recherche vraiment aussi un espace de liberté, de déployer en fait le moment présent de manière assez forte au sein même de l'écriture. Donc ça joue aussi sur ce rapport un peu performatif de presque donner l'impression que la chose est en train de s'écrire sous nos yeux. Donc c'est aussi un enjeu de cette écriture, de la sensation de partager un moment collectif qui est en train d'advenir devant nous de manière un peu, organique ou un peu spontanée, en fait.
Alors moi, par exemple, je connais certes un peu la danse contemporaine et autres, mais pas forcément la musique. Alors une bourrée à deux temps, ça se distingue comment de peut-être d'autres
Bourré à, je sais pas, à 3 temps, à 4 temps.
Ben, bourré à 2 temps, c'est binaire. Ça veut dire que c'est une musique binaire qui se découpe de manière binaire, alors que la bourrée 3 temps, c'est à 3 temps. Donc c'est ternaire.
Est-ce que ça change, est-ce que ça change la façon de danser sur la musique?
Ouais. Ben ouais, totalement, parce que c'est le même pas, c'est un pas de bourré. Donc c'est 3 pas, mais c'est binaire, quoi. C'est et le binaire, c'est un peu la majorité des chansons qu'on entend, des morceaux, de la musique, c'est souvent binaire, en tout cas dans la musique pop et tout ça. Ternaire, c'est la valse par exemple, c'est 3 temps, donc c'est un autre groove, c'est un autre rapport au rythme, quoi. C'est un autre rythme.
Et vous vous êtes connecté un peu aux traditions? Est-ce que vous êtes allé dans le Berry ou quelque part pour voir les gens? De quelle façon ça se pratique encore?
Bah ouais, en fait moi ça fait 6 ans que je côtoie un peu le milieu des bals traditionnels et tout ça, parce que j'ai fait un solo il y a 5 ans qui s'appelle Labourer, le verbe labourer, où là je travaillais à partir de Labourer 3 temps. Donc c'est en découvrant un petit peu ce milieu par des amis musiciens que j'ai rencontrés, par des amis musiciens plutôt côté Auvergne. J'ai rencontré une association avec qui j'ai pris beaucoup de stages, de cours, etc. Et quand j'ai voulu faire cette pièce là à partir de du pas de bourré de temps, j'ai contacté donc Solange dont je te parlais, qui vit dans le Berry et qui vit et qui enseigne là-bas.
Mais est-ce que tu es un enfant de la région parisienne ou est-ce que tu viens de...
Ouais. Non, j'ai pas du tout d'origine. Enfin, après, on a peut-être tous plus ou moins des origines on sait pas trop d'où, mais non, j'ai pas connu les bals quand j'étais enfant. J'ai découvert vraiment il y a 6 ans, quoi. Ouais.
Et donc, ça t'a un peu intéressé, passionné?
Ben ouais, ça m'a plu pour plein de raisons, mais déjà ce rapport musique et danse que je trouve très fort dans le bal, quoi, de cette indissociation entre la musique et la danse. Quand on dit faire une bourrée 3 temps, c'est à la fois la musique et la danse, donc c'est quand même assez beau cette fusion. Et donc je pense que ouais, j'ai retrouvé quelque chose qui était important pour moi, qui était lié à l'origine de mon désir de danse, qui est beaucoup lié à la musique en fait. Et voilà. Et après aussi, je trouvais que ce pas de bourrée traditionnel que je voyais danser dans les bals, il était très beau, parce que cette simplicité en fait du pas, il y a quelque chose un peu presque archétypal du pas de danse en fait, en général. Du coup voilà, pour la bourrée, c'était le solo, c'était partir du pas de bourrée comme une sorte de forme archétypale du pas de danse. Et du coup, pour ça, j'ai pioché un peu dans plein de choses, dans la danse baroque, dans la house dance, qui est une danse plus urbaine. Et en fait, je me suis rendu compte que dans quasiment toutes les danses, il y avait du pas de bourrée, mais juste sous des formes et des rapports à la musique différents. Et du coup, c'est comme ça que je me suis intéressée aussi au pas de bourrée 3 temps de la danse traditionnelle. Et qui avait une forme tellement, voilà, tellement simple et belle en même temps, que je me suis dit, il y a comme une source un peu de danse là-dedans, quoi. Une sorte d'origine.
Mais quand on danse dans un bal, bon, on a une relation forte avec le ou la partenaire, et une relation un peu implicite avec tous les autres couples qui sont sur le parquet, pour pas leur rentrer dedans. Et ici, il y a des relations écrites. Alors, comment tu travailles sur les relations entre les différents, bon, interprètes, personnages, danseurs?
Ben, c'est justement tout l'enjeu un peu de cette pièce, c'est qu'à la fois il y a une partition commune de déplacements dans l'espace qui sont écrits, qui créent à des moments des rapprochements, des éloignements, des rencontres. Et en même temps, il y a toute une partition beaucoup plus libre qui se rejoue à chaque fois qu'on le fait, et où c'est à nous-mêmes de de créer à chaque moment des liens différents avec l'espace, avec les spectateurs, avec le sol, avec ses émotions, ses sensations, avec les autres partenaires. Et du coup, il y a vraiment comme ça une sorte de danse aussi, des relations, de avec quoi je me mets en relation. Donc ça peut être les partenaires, mais c'est un peu tout ce qui est là en fait. Et du coup, voilà, il y a un peu cette double trame permanente.
Mais le bal, alors, il y a eu des exemples dans l'histoire, des films, etc., aussi dans la création chorégraphique sur le bal. Quand on est dans un bal, quand on danse, c'est de la joie, normalement, quand on parle des émotions, sauf des fois peut-être que si on a quelqu'un, si tu as quelqu'un qui te rentre dedans, tu vas des occasions de se fâcher, ou un peu de jalousie, ou des etc. Mais généralement, c'est joyeux. Alors, comment est-ce que tu travailles sur les émotions ici?
Bah, pour nous, c'est très joyeux quand même de faire ça. Enfin, le fait même d'avoir la musique qui nous fait danser, en fait, il y a un truc de joie un peu évident.
Mais dans un spectacle, on a quand même des choses à raconter. Et comme on dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire.
Comment ?
On dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire.
Ah, peut-être. Bah là, justement, c'est à la fois être complètement au présent, donc peut-être dans ce sens-là, ne pas avoir d'histoire, être vraiment dans le moment. Et en même temps, on travaille aussi comment ce pas, dans sa répétition et dans sa durée, il fait monter des gestes qui sont issus d'une histoire, un peu une histoire humaine très très large. C'est pas forcément des gestes intimes, enfin qui sont liés à ma propre histoire, mais voilà, c'est voir un peu comment ce pas il peut permettre de faire monter des choses, des gestes d'une histoire humaine assez large en fait. Chose très simple, hein. Mais des gestes de relation, des gestes de travail, des rapports, l'histoire des corps quoi, en général quoi. De qu'est-ce que c'est être un corps humain. On traverse tout le temps, on fait, comment dire, en tant qu'être humain vivant, on traverse forcément l'histoire de tous les autres corps qui ont vécu et qui ont fait ces gestes en fait, qui ont été des corps vivants. Et du coup, voilà, il y a un peu cette idée de se laisser traverser par cette histoire là. Cette expérience humaine. Ouais.
Alors déjà, je me dis, est-ce que les personnages, est-ce qu'ils ont des histoires avec eux-mêmes ou avec un autre ou avec tout le monde ou... Déjà, même le choix d'avoir, je ne sais pas combien d'interprètes, et déjà d'avoir un nombre pair ou un nombre impair dans une situation de bal, ça peut être important. Donc là, on parle de relations, de dramaturgie, d'émotions.
Le fait d'être six, bah en fait, le fait d'être six, ça permet un groupe. J'avais envie qu'il y ait une notion un peu de communauté, de diversité aussi, de gens. Voilà, qu'il y ait quelque chose où on puisse un peu parfois être perdu dans la foule, enfin, qu'il y ait quelque chose où on est pris dans ce groupe, quoi. Donc c'était surtout ça l'idée, c'était d'être un individu dans un groupe et qui fait qu'on peut oublier parfois certains et quand même qui continue à exister. Je peux regarder juste quelqu'un à un moment donné et puis je sais que les autres continuent à faire des choses, mais je suis pas forcément en train de les suivre exactement dans leur parcours. Donc voilà, j'avais envie qu'il y ait une sorte de petite foule en fait de gens au plateau qui fait qu'on peut pas tout voir, on peut pas avoir accès à tout moment. Forcément, il y a des choses qui nous échappent. En plus, c'est en cercle, donc forcément, on voit pas la même chose que les autres spectateurs, spectatrices. Voilà, j'avais envie de quelque chose un petit peu foisonnant, quoi, avec un peu beaucoup de choses qui se passent en même temps.
Oui, on peut tout à fait construire une, quelque chose de plutôt abstrait, ou bien créer des situations, des micro-histoires, des choses qui... Ça peut être justement dans un bal, mais là, ça peut être juste une situation, ou bien on peut aller plus dans le concret.
Ouais, mais pour moi, en fait, j'aime bien souvent que ça se mélange, la fiction, ce que moi j'appelle la fiction, l'imaginaire, des gestes, de qu'est-ce qu'on de faire avec peut-être des gens invisibles qui sont là, qu'on voit pas, mais on danse avec eux. Et en même temps, des choses très primaires, comme des gestes quotidiens ou vraiment sur le moment, qu'est-ce qui m'arrive. Enfin, moi, j'aime bien toujours mélanger le rapport à la fois très concret, presque un peu trivial, et aussi quelque chose de plus fictionnel, de plus... Ouais, je sais pas, ouais. Différents registres en même temps.
Après, tu parles aussi d'émotions et de l'éthique de Spinoza. Et parce que quand on crée une pièce, on a des choses qui nourrissent un travail, une recherche. Ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément sur le plateau, mais qui sont quand même là de façon intrinsèque. Ouais. Alors, dis-nous un mot à partir de... à propos de ces strates qui ont nourri ce travail.
Ouais, bah, y en a plein. Il y en a plein. Et bah, les affects, ils sont présents dans la pièce au début. Ils sont cités. On a sélectionné une liste d'affects donc de Spinoza, parce qu'il y en a, beaucoup, il y en a 54 ou 56 en tout, donc on les dit pas tous, mais on en dit pas mal. Et pour moi, c'est un peu comme une manière de poser la pièce sur ça, comme une sorte de prérequis où on se connecte un peu à nos émotions. Les désirs, les tristesses, les joies, les peurs. Et du coup, après, elles sont comme un donné un peu de départ. Après, on peut les voir ou pas les voir. Enfin, je pense que c'est libre à chacun. Je veux pas donner une émotion. Enfin, c'est pas, je veux pas passer un message avec une émotion, mais c'est plus, que il y a cette possibilité de lire à travers les émotions.
Après, il y a donc un dernier mot là sur les musiciens. Il y a deux musiciens qui m'ont dit en fait que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, deux que tu as réunis pour cette création. Tu peux nous les présenter? Qui sont-ils? Comment est-ce que tu les as trouvés?
Eh ben, du coup, il y a Marion Cousin, donc qui est une amie et une musicienne et chanteuse. Et on était plutôt amis au départ, quand je lui ai proposé de faire ce spectacle ensemble. Et voilà, et elle a aussi ce rapport où elle a fait des disques à partir de chants traditionnels plutôt de la péninsule ibérique. Donc elle avait aussi ce goût pour mélanger des sources plutôt traditionnelles et plus contemporaines, expérimentales. Et puis avec Marion, on a aussi pas mal... je l'ai invitée au tout début du processus, donc on a beaucoup aussi lu l'éthique ensemble de Spinoza. Enfin, elle a pas mal participé aux recherches de départ. Et Julien de Sailly, il est musicien. On s'est rencontrés, on se connaissait pas beaucoup. Il avait juste vu mon solo labouré. Et au début, ça devait pas être lui qui devait faire la pièce. Ça devait être une musicienne qui jouait du banjo. Donc on a commencé le processus avec du banjo. Et en cours de route, ça a changé. Et donc on est passé à la cornemuse. Et voilà, et c'est quelqu'un qui a aussi des pratiques, bah, lui pour le coup, qui maîtrise vraiment ses musiques à danser, qui fait beaucoup de la musique à danser pour les bals ou d'autres formes, concerts, et qui a aussi une approche assez expérimentale, musicale, très diverse. Donc on s'est très bien entendu dans la démarche artistique. Et voilà. Et du coup, bah, il travaille avec ce, ce matériau, ce motif de bourré d'autant, et on cherche, et surtout lui, mais on cherche des variations autour de ça, de comment rester dans, la, dans le même tout en, en, en faisant en sorte que ça continue d'évoluer, de se transformer et de... Voilà, à la fois que ça reste au même endroit et que ça, ça évolue tout le temps aussi.
Et après, juste un petit truc. J'ai vu un petit moment de répétition et il y avait, vous avez un joli parquet de danse, hein, et sur le parquet, j'ai vu trois œufs. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le spectacle ou est-ce que c'est une ruse pour les répétitions?
Ça a à voir, ouais, ouais, ça a à voir avec le spectacle. Et ouais, ben en fait, j'avais envie qu'il y ait quelque chose aussi de ce côté un peu trivial dans l'œuf. Voilà, c'est vraiment un, quelque chose, ça coûte pas cher, tout le monde a des œufs, c'est facile d'en trouver, c'est très simple. C'est de la nourriture aussi, donc ça a à voir avec ce côté aussi un petit peu carnaval, le rapport au corps, à la chair, au fait de, à la fête, au fait de manger. Enfin, ça a à voir avec voilà, le corps un peu en général. Et puis c'est fragile, enfin ça peut se casser. On est en train d'écrire justement en ce moment une sorte de dramaturgie de l'œuf. Il y a un côté qu'on maîtrise pas aussi, ça j'aimais bien, ça peut se casser en fait, donc il peut y avoir un accident et ça amène de la surprise et ça nous met aussi au présent de la situation. Et en même temps, il y a toute la part très symbolique aussi de l'œuf, quoi, de la, la vie et de la mort, la renaissance, voilà, qui fait partie, font partie un peu de mes obsessions de cycle de vie, mort, vie. Donc voilà. Donc ça, ils sont là depuis un moment et on, voilà, on continue de chercher autour de ça et. Pour le moment, ils sont importants.
Voilà, ça n'a rien de trivial du tout. Ça crée quand même pas mal de suspense.
Ouais, ouais, ouais.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait là? Est-ce qu'ils vont survivre ou pas?
Voilà, ouais.
voilà. Alors, on va voir donc là, bientôt la première du spectacle qui s'appelle
Branle.
Et, ouais, et c'est à partir du. À partir du 17, je crois.
Alors, c'est les 17 et 18 novembre à l'Atelier de Paris. Et 7, 8 et 9 décembre. Ah non, pardon, 17, 18 novembre à l'Atelier de Paris. Et 7, 8, 9 décembre au CND à Pantin.
Bon, super. Merci beaucoup, Madeleine.
Ben, de rien.
Et merde pour la première.
Yes.
Sous mon tramway.
On vit dans un monde merveilleux. On a conscience de la planète.
On se colle partout des pastilles vertes.
On est tous écolos.
Tant mieux. Souvenez-vous, avancez sur ce salutaire.
Bon, vous avez entendu donc Madeleine Fournier à propos de Branle, son spectacle qu'elle crée avec tous les danseurs et les deux musiciens à l'Atelier de Paris. La semaine prochaine, donc du 17 au 18, et puis en décembre, la reprise au CND. Donc CND, c'est le Centre National de la Danse à Pantin, au métro Hoche.
Je rate mon avion.
Et tous les matins sous la douche.
Voilà, c'était donc Tempête sur les planches pour aujourd'hui. Et on fait la clôture avec encore la compagnie Jolie Môme. Donc, sur Internet, là, vous avez toutes les informations, les dates et les liens pour réserver pour leur spectacle Révélation. CIE, donc comme compagnie, CIE-jolimôme.org.
Les légumes, pareil que c'est bon, on les fait venir même hors saison, de l'autre bout de la planète.
Souvenez-vous, avancez sur ce salutaire. On est des fous, égoïstes, inconscients, primaires.
gens expliquent comment faire pour bien consommer. Même la pub devient éthique, tirée sur papier recyclé.
On est conscient du réchauffement, des gestes qui sauvent l'environnement.
Oui, mais enfin, quand il fait chaud, tu mets la clim.
Oui, mais pas trop.
Et tous les matins sous la
douche, ouais, yeah, yeah, yeah.
Et tous les soirs à la télé,
ouchouaïa, aïe, aïe, aïe.
Et tous les matins sous la douche,
aïe, 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 aïe.
Le ministre de l'écologie a des idées pour l'énergie.
Un peu d'éolien, de solaire, sans oublier le nucléaire.
Pour notre 4x4, on a du pot, on y met du carburant bio.
Mais pour être sûr qu'il y en ait assez, dommage qu'il faille déforester.
Souvenez-vous, avancez sur son salutaire. On est des fous, égoïstes, inconscients, primaires.
Et quand j'allume la télé, je sais vraiment plus quoi penser. Y'a plus d'un milliard de Chinois. Et moi,
et moi,
et moi,
sans se soucier de la planète, ils produisent, consomment comme des pères.
Y'a trop d'étrangers sur la terre.
Ils nous prennent l'eau,
ils nous pompent l'air.
Et tous les matins sous la douche,
Ushuaïa, aïe, aïe, aïe.
Et tous les soirs à la télé,
Ushuaïa, aïe, aïe, aïe.
Et tous les matins sous la douche,
aïe, 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 aïe.
J'ai peur de l'air que je respire, je prends des cachets pour dormir.
Oh, ils sont pas bio,
mais ça fait rien, on survit par tous les moyens.
Les hommes sont devenus fous.
Si c'est pas eux, ce sera nous. Peut-être qu'après tout, c'est une bonne guerre qu'il faut pour protéger la terre.
N'est-ce pas, Kouchner?
On parle tôt aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, musé, j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. J'ai rêvé. Oh là là, ah, 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 ah. Que d'amour splendide j'ai rêvé. Avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'aigrenais dans ma course. Des rimes, mon auberge, j'étais à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Doux froufrou. Oh là là, ah, 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 ah. Que d'amour splendide. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme vin de vigueur, où riment au milieu des ombres fantastiques. Fantastiques. Comme des lyres, je tirais des élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Un pied près de mon cœur, un pied près de mon cœur. Je m'en allais les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel musé, j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. J'ai rêvé. vide, j'ai rêvé.
Je voudrais vous casser les hanches.